Mon enfance se résume surtout à des allées et venues à vélo entre la bibliothèque municipale et chez moi. Des piles de 12 romans à dévorer. J'aimais particulièrement remonter dans le temps, découvrir des époques révolues dans mes lectures. Je ne sais plus exactement comment j'ai mis la main sur un exemplaire d'Orgueil et préjugés, mais je me souviens de m'être plongée dans une œuvre palpitante. Je n'ai probablement pas compris toutes ces subtilités, mais j'ai appris que les classiques littéraires peuvent être tout sauf plates. Depuis, j'ai relu ce livre une dizaine de fois, pour toujours retrouver la plume, de Jane Austen.
Mr. Darcy, and would you consider pride a fault or a virtue?
That I couldn't say.
Because we're doing our best to find a fault in you.
Maybe it's that I find it hard to forgive the follies and vices of others, or their offences against me. My good opinion, once lost, is lost forever.
Dear, I cannot tease you about that. What a shame, for I dearly love to laugh.
Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, sur la planète des sages qui s'ouvre sur cet extrait de Orgueil et préjugés, l'adaptation cinématographique avec Keira Knightley, sortie en 2005. Donc, on entendait là, Elizabeth Bennet qui parlait de son défaut d'aimer rire, rire des gens, on pourrait le dire comme ça. Enfin, c'est Émilie Brosseau-Gaussier qui a choisi cet extrait-là ce matin. Ça va bien, Émilie?
Oui, ça va bien, toi?
Oui, merveilleusement. Comment tu résumerais ce qu'on vient d'entendre? Parce que tu me faisais des gros yeux, là.
Mais en fait, c'est une scène dans laquelle Elizabeth Bennet essaie de trouver un défaut à M. Darcy. Puis le défaut qu'il avoue avoir, c'est d'avoir de la difficulté à pardonner à ceux qui l'ont offensé. Et elle lui dit, en fait, qu'elle ne peut pas le taquiner vraiment à propos de ça parce que c'est un défaut quand même vertueux, d'une certaine façon. T'sais, on ne peut pas vraiment faire de blague là-dessus. Puis elle dit, mais c'est dommage parce que j'aime beaucoup rire.
Alors, on est en plein dans l'univers de Jane Austen, puisque Orgueil et préjugés, c'est un roman de cette chère écrivaine. Donc, écrivaine avec qui on va avoir la chance de parler, avec Flavie Bergeron. Bonjour, Flavie.
Bonjour.
Ça va bien ce matin?
Oui, vous.
Moi, je resplendis de bonheur, comme à chaque émission, finalement. Je suis super content que tu sois là, Flavie, parce que bon, on le sait, t'es quand même une lectrice de Austen, donc ça va être vraiment intéressant d'avoir des discussions avec vous deux. Je sais que vous êtes les deux des grandes fans de cette autrice, n'est-ce pas?
Effectivement, ben comme je disais là, dans mon texte d'intro, ça fait quand même longtemps que Jane Austen fait partie de ma vie et j'ai lu tous ses romans là, depuis et je suis... Avec plaisir. La plupart, je pense que je les ai relus au moins une fois chaque.
Wow! OK, donc ça va pouvoir alimenter nos discussions aujourd'hui, n'est-ce pas? Et puis, Flavie, toi, c'est quoi ta relation avec Austen?
Oui, ben ça ressemble un peu à ce que Millie a dit. Moi aussi, c'est une autrice qui m'accompagne depuis longtemps. Dans ma famille, ma mère, ma sœur sont des grandes fans de Jane Austen, donc j'ai toujours un peu su c'était qui, et baigné un peu dans l'univers là, des films avec des belles robes et de la belle musique. Et plus tard, là, quand je suis devenue assez vieille pour les lire, moi aussi, j'ai eu la chance là, de me plonger dans son univers. Et comme Millie, j'ai lu ses romans au moins tous une fois. Certains que j'ai moins aimés, mais j'ai quand même fait plusieurs lectures de mes préférés. Donc, je la connais quand même assez bien.
Oui, il faut dire que toi et moi, on a quand même eu la chance de parler d'Orgueil et préjugés, donc le roman fort d'Austen qu'on va pouvoir approfondir un peu plus au courant de l'émission. Mais toi et moi, donc, on a eu la chance de s'en parler pendant quoi, facilement un mois dans le cadre de notre cours. Donc, on suivait un cours sur les œuvres marquantes de la culture occidentale et le roman était à l'étude dans un des cours de cette formation-là. Donc, on a pu y aller là, volume par volume. Il y en a trois. Et puis, discuter à chaque semaine en long et en large. Ça se peut qu'on fasse des références à ce qui s'est dit dans ce cours-là, à ce que notre professeur aussi, dont on salue, Julie, qui nous a quand même emmené à voir des choses de ce roman. Mais enfin, je passe la balle à Millie qui va pouvoir un peu plus nous mettre en contexte, vu que là, on en parle. on est des fans, surtout vous, mais on ne sait pas c'est qui. Peut-être certains ne savent pas c'est qui.
Oui, ben en fait, Jane Austen, il n'y a pas grand-chose qu'on sait. Ben, à raconter sur sa vie, parce qu'elle mène une vie quand même assez tranquille qui se résume pas mal à écrire des romans. Mais, juste pour avoir quelques petits repères biographiques et bibliographiques, Jane Austen est née le 16 décembre 1775 dans un village du Hampshire en Angleterre. Elle vit dans une famille nombreuse. Elle est particulièrement proche de sa sœur Cassandra, donc ils sont vraiment le meilleur ami et ils vont rester ensemble toute leur vie. Parce que Jane Austen ne se mariera jamais, même si des gens disent qu'elle a eu une demande, des demandes. Il y a comme plusieurs histoires à ce sujet, mais apparemment, elle aurait refusé finalement. En fait, son père à Jane Austen, c'est le révérend là, du village où elle naît. Donc, c'est une famille qui fait partie d'une certaine classe moyenne, quand même aisée, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, ils sont comme des titres importants, mais ils ne sont pas des gens qui ont beaucoup de moyens. Donc, pour y arriver, là, son père enseigne à des garçons du village à la maison. Il fait aussi, il cultive son terrain, donc il fait un peu d'agriculture pour comme joindre les deux bouts.
Et ça va être déterminant dans son œuvre parce que justement, on est avec Austen dans ce monde aristocratique, mais on est dans cette classe-là. Je pense qu'on va pouvoir en parler un peu davantage au courant de l'émission, mais quand même de savoir que justement, elle n'est pas là, de la très haute bourgeoisie. Tout comme le fait aussi d'avoir choisi de ne pas se marier, il faut comprendre qu'à l'époque, c'est quand même un choix assez important. On a une époque où normalement, une femme va vouloir se caser, comme on pourrait dire aujourd'hui.
Oui, ne serait-ce que pour des raisons financières, mais aussi un peu de sécurité, parce que généralement, les femmes, en fait, n'ont pas nécessairement accès à l'héritage ou du moins au titre de leur père. Donc, les titres peuvent seulement être transmis de père en fils et pas en fille. Donc, une fois, dans le fond, que les pères décèdent, les filles et les femmes, donc les épouses, peuvent se retrouver à la rue et dépendre finalement de la gentillesse de leur famille étendue. Il y a d'ailleurs quelques romans de Austen qui parlent de ces enjeux-là, dont Orgueil et préjugés, mais on va y revenir plus tard. Mais c'est important de mentionner que dans la plupart des romans de Austen, on peut faire des parallèles avec sa vie. Notamment dans les personnages qui aiment beaucoup la littérature. Elle aussi, dès son jeune âge, aime beaucoup lire et écrire. Donc, elle va écrire ses premiers textes à peu près vers 12 ans. Donc, même des versions préliminaires de certains textes qui sont devenus ses romans par la suite. D'ailleurs, elle écrit la première version de Sense and Sensibility, qui est en français Raison et Sentiment. Donc, c'est son premier roman. Elle l'écrit autour de 1795, mais il va seulement être publié quelques années plus tard. Elle va aussi rédiger le manuscrit de Pride and Prejudice, donc Orgueil et Préjugés, entre 96 et 97. Puis elle va écrire l'année suivante la première ébauche de Northanger Abbey. Ce manuscrit-là va être acheté par un éditeur, mais il ne sera jamais publié. On ne sait pas vraiment pourquoi. Puis, autour de 1800, toute sa famille va déménager à Bath. C'est donc une ville qui va se retrouver dans plusieurs de ses romans. Puis, elle a autour de 25 ans à ce moment-là. Puis, pour le reste de sa vie, elle va habiter dans les environs là, de Bath.
Bath qui, si j'ai bien compris, un endroit où justement il y a des bains thermaux, je pense, c'est ça?
Oui, exactement. C'est ça, c'est les Romains, en fait, qui avaient des thermes à Bath, plus que des sources d'eau chaude. Et encore, là, à l'époque où prennent place les romans de Jane Austen, les gens vont à Bath, oui, pour aller dans les bains, pour faire des cures un peu, là, comme on peut aller à la mer pour faire des cures à l'époque. Mais il y a aussi vraiment là, un gros cercle social, une grosse vie mondaine qui se déroule à Bath, là, moins grosse qu'à Londres, mais quand même, là, c'est un peu là, une place où il va y avoir une vie sociale.
Oui, exactement. Puis donc, une dizaine d'années après, elle habite toujours à Bath. Donc, en 1811, son premier roman est publié, c'est Raison et Sentiment. Puis, deux ans plus tard, donc en 1813, Orgueil et préjugés aussi est publié. Les deux romans vont vraiment être des succès. Jane Austen va être lue par beaucoup de gens. Ça va être très, très populaire dès la publication des romans. Ensuite, elle va devenir une auteure quand même assez prolifique parce que l'année suivante, elle publie un autre livre qui s'appelle Mansfield Park. D'ailleurs, un fait amusant, le prince régent, donc qui va être le futur roi George IV, c'est un fan de Jane Austen et donc elle veut lui dédier son roman suivant, Emma, qui lui paraît en 1815. Dans les dernières années de sa vie, elle travaille sur plusieurs textes. Il y en a plusieurs qui ne sont pas finis. On a accès à des restes ou des parties des manuscrits, mais ils ne sont pas publiés puisqu'ils sont incomplets. Puis, en fait, Jane Austen va mourir très jeune, donc à 41 ans, des suites d'une maladie qui va être assez rapide. Puis, deux de ses livres vont être publiés à titre posthume la même année, donc Persuasion et Northanger Abbey, qui était un des premiers livres qui devait être publié puis qui n'a jamais été finalement. Donc, puis bien des années plus tard, en 1871, il y a Lady Susan, qui est un court roman épistolaire qui aurait été écrit dans sa jeunesse, qui est aussi publié. Donc, ce qui est important à retenir, surtout avec Jane Austen, c'est que c'est des livres qui sont encore lus et étudiés aujourd'hui, puis qui ont toujours été populaires, appréciés. D'ailleurs, vous l'avez étudié dans votre cours, comme tu mentionnais en début d'émission. Puis, ce qui est important aussi de retenir, c'est que Jane Austen va vraiment transformer l'or du roman en intégrant des personnages qui sont très réalistes, auxquels on peut s'identifier même encore aujourd'hui pour certaines facettes de leur personnalité. Puis aussi, elle va introduire un nouveau style d'écriture qui va vraiment être repris dans beaucoup de romans qui peut-être ne nous paraît pas si révolutionnaire aujourd'hui, mais que c'est une des premières à avoir intégré ça, c'est le fait d'avoir un narrateur omniscient, mais qui nous donne quand même accès à la pensée des personnages dans une description. Donc, on ne dit pas comment se sent le personnage, mais par son écriture, elle nous fait sentir comme lui. On ressent vraiment ce que le personnage ressent.
D'ailleurs, tu dis qu'on l'étudie encore aujourd'hui. C'est ce qui m'a fasciné. Je ne connaissais pas Austen avant de la lire au COMCO, le diminutif du certificat sur les œuvres marquantes de la culture occidentale.
Prend un diminutif.
Ouais. Mais c'est ça, mais c'est que de ce roman, qu'on peut avoir l'impression que c'est une histoire d'amour, justement, en Angleterre, dans l'aristocratie. Ça semble, de prime abord, peut-être un peu superficiel comme livre. Quand on connaît vraiment pas Austen, et finalement on entre dedans et on réalise que non, là, c'est fécond, là. Chaque passage de ce roman-là est matière à discussion, ressort des thèmes passionnants. C'est vraiment fascinant, Austen.
Oui, d'ailleurs, pour commencer l'émission, j'avais le goût qu'on discute un peu plus de Orgueil et préjugés. Donc, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas l'histoire de ce roman, je vais vous faire un résumé vraiment très court pour vous donner une idée du contexte dans lequel ça se passe. Donc, c'est l'histoire d'Elizabeth Bennet et de sa famille. Et comme elle n'a que des sœurs, aucune ne peut hériter du domaine familial à la mort de leur père, ce qui veut dire que si elles ne sont pas mariées, elles vont se retrouver probablement à la rue, comme j'expliquais en début d'émission. La situation change quand il y a un jeune célibataire bien nanti, Mr. Bingley, qui vient s'installer dans le voisinage avec son ami qui est encore plus riche, Monsieur Darcy. La sœur aînée d'Elizabeth, Jane, tombe alors amoureuse de Bingley, alors que Monsieur Darcy et Elizabeth se détestent. Ensuite, il va y avoir un chassé-croisé dans lequel les premières impressions vont se révéler fausses, la perception de l'autre évolue, et finalement, Darcy et Elizabeth finissent par s'éprendre l'un de l'autre. Ça finit en à peu près tout le monde se marie et vive heureux, ou presque, selon les personnages. Mais donc, c'est un aperçu assez rapide du livre.
Comme l'émission de la semaine dernière, vous avez pu comprendre que nous allons divulgâcher des informations sur certains romans, principalement Orgueil et préjugés. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, vous pouvez vous boucher les oreilles à certains moments dans l'émission. On a déjà commencé.
Que trop tard!
Mais en même temps, je veux dire, c'est quand même pas une série à suspense, là, Orgueil et préjugés. Je pense que c'est pas grave si on vole des punchs.
Oui, en fait, c'est une des forces, je crois, d'être pas dans le plot twist, c'est pas le fait qu'on ne s'attendait pas à ce que ça l'arrive, et puis ça l'arrive, et là, on est dévasté. Il y a quand même quelques effets de surprise dans le roman, mais c'est tellement bien construit, fignolé, c'est intelligent, que justement, c'est plus dans le développement vers ce sentiment-là. Donc, je pense que c'est assez tôt dans le roman où on comprend qu'il va sûrement avoir une transition entre Darcy et Elizabeth qui se détestent vers, c'est probablement le couple central au livre. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de voir comment ça passe d'un état à l'autre plus que le revirement en tant que tel.
Oui, effectivement, mais aussi, c'est de manière plus générale, j'avais envie de vous demander, parce qu'on qualifie souvent ce roman-là de parfait. Même Jane Austen elle-même a parlé du personnage d'Elizabeth Bennet comme son personnage préféré. D'ailleurs, on a une petite citation à ce sujet sur laquelle on va revenir. Mais avant de lancer l'extrait, je vous propose une question sur laquelle on peut réfléchir. C'est pourquoi ce roman est aussi bon?
Ben, je pense que comme Patrick l'a déjà dit, comme tu l'as dit aussi, Milly, il y a un peu un aspect de roman parfait. Dès le début, dès les premiers chapitres, on commence déjà à comprendre comment l'histoire va se dénouer. Et de mon côté, du moins, il y a quand même une certaine satisfaction à voir que le roman se dénoue comme je l'ai espéré, mais d'une manière pas nécessairement attendue. Donc oui, on sait dès le départ un peu là, que Jane et Bingley ils vont finir ensemble, Elizabeth et Darcy vont aussi finir ensemble, mais c'est vraiment la progression des personnages qui est vraiment logique, qui n'est pas rocambolesque, qui va vraiment là, rester un peu dans l'esprit d'Austen, très réaliste, très rationnel, mais aussi sentimental à la fois, qui va faire qu'à la fin, la genre de genèse là, va être satisfaisante, mais aussi à la fois, on va avoir travaillé pour l'atteindre, tout va pas avoir été donné là, si facilement.
C'est intéressant ce que tu dis, Flavie, à propos de ce fait-là que dans le roman, finalement, ça finit bien. En somme, c'est pas un roman inconfortable. On n'est pas tout à fait dans le feel-good total, mais il y a quand même un sentiment de bien-être à la lecture. Mais oui, c'est pas par un jeu facile de « on donne aux lecteurs ce qu'ils veulent ». Je vais citer ce que je risque de faire à quelques moments, mais notre professeur Julie, qui nous disait que dans ce livre-là, les personnages ont ce qu'ils méritent. Puis je pense que c'est ce qui fait que c'est aussi le fun, c'est aussi plaisant de voir le personnage qui, effectivement, à la fin, ben, par exemple, le couple Darcy et Elizabeth, ça finit ensemble. On est content pour eux, mais on est content parce que c'est ce que ces humains-là méritaient et c'est qu'ils ont travaillé vers ça. Il y a aussi toute la dimension, pour ma part, de ce qui rend ce roman aussi intéressant, c'est la dimension apprentissage du livre. C'est quelque chose qu'on va probablement parler beaucoup aujourd'hui, mais c'est un livre à travers lequel les personnages apprennent et que le lecteur également apprend grâce à ces personnages-là. Et ça, c'est vraiment réussi.
Oui, ben d'ailleurs, on peut faire un lien avec ce qu'on disait à l'émission de la semaine passée, avec le fait que des personnages échangent et évoluent au fil de l'histoire. Il y a vraiment une évolution de la part des personnages, notamment le personnage principal d'Elizabeth Bennet, qui, même à la fin, un moment un peu de révélation, là, si on veut, où elle dit ah, « j'ai vraiment été aveugle, j'ai mal jugé », puis qui prend vraiment conscience, dans le fond, de son cheminement qui fait qu'elle en vient à finalement être amoureuse de Darcy, alors qu'au début, elle le voit comme un homme qui est pas très agréable, un peu... comment je dirais ça?
Mais une des premières descriptions qu'on a de Darcy, je vais essayer de la retrouver exactement, mais c'est sommairement, c'est que c'est quelqu'un à qui tout le monde, en le voyant, il provoque un... C'est quoi le nom du sentiment exactement? Mais en le voyant, on est déçu. En fait, c'est une comparaison avec Bingley. Là, c'est un peu yin yang. Là, c'est vraiment pas comme ça dans le roman, mais si Bingley est la lumière, là, le beau, tout le monde est comme « wow, Bingley », et c'est totalement l'inverse pour Darcy.
Il est très antipathique, là, puis ça vient aussi du fait que il est très riche, il est très beau, il est très grand, il a une belle prestance. Donc là, au premier regard, les gens, ils le voient et disent « mon Dieu, quel homme qui semble absolument extraordinaire ». Mais là, ils vont lui parler, puis assez rapidement, il n'est pas très sociable, plutôt taciturne, parfois un peu méchant. Donc, tout ça, ça vient un peu là, l'espèce de clash, là, d'opposition qui entre la partie visuelle et la partie personnalité du personnage qui vient contribuer à rendre encore plus apathique et, en quelque sorte, décevant.
Ouais, le premier commentaire qu'il fait sur Elizabeth Bennet, c'est qu'il ne veut pas danser avec parce qu'il ne la trouve pas de son goût, il ne la trouve pas assez belle.
Donc, précisément, il dit qu'elle est tolérable.
Ce qui, on s'entend, n'est pas un compliment.
Non. Quel romantique.
Oui, c'est ça. J'avoue que c'est pas quelque chose que j'aimerais qu'on dise de moi.
Non, un gars t'approche d'un bar, t'es tolérable.
Moi!
Donc, ouais, non, c'est pour ça que, oui, que Darcy, finalement, est pas un personnage qu'on apprécie, mais qu'on finit effectivement par aimer en apprenant à le connaître puis en le voyant évoluer. L'émission de la semaine dernière à laquelle tu faisais référence, c'était celle sur Les Tourneaux Rivard, disponible sur iTunes, Spotify ou le site de Shiz.
C'était un moment publicitaire spontané, c'est bon.
Pour votre propre émission, waouh!
Mais là, il faut se vendre un petit peu des fois. Mais ouais, pour en revenir à M. Darcy, il y a aussi le fait qu'en fait, parce qu'il est antipathique au départ, on vient à le juger négativement dès le début. C'est ce qu'Elisabeth Bennet fait. Mais en fait, on apprend aussi que cette espèce de mur entre lui et les gens, le fait qu'il soit très, un peu bête, finalement, ça vient surtout du fait qu'il est timide, finalement, que c'est quelqu'un de très réservé. Puis que quand on apprend à mieux le connaître, quand il est moins gêné aussi, il se révèle être un homme très bon. Et Elisabeth s'en rend compte, d'ailleurs, quand elle va rencontrer les gens qui vivent dans sa maison et son domaine, là, qui s'occupent, dans le fond, ses domestiques, qui lui parlent de Darcy comme étant un homme extraordinaire, finalement. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que sa perception change. Puis il y a quand même quelque chose, je vous lance la question, il y a quand même quelque chose d'un peu fascinant dans cette idée que l'opinion d'une autre personne sur une tierce personne change notre propre opinion. Je ne sais pas si vous avez suivi ce chemin.
Oui, oui.
Mais on voit beaucoup ça dans le roman aussi. Là. Par exemple, dès la première partie, quand on va parler à Wickham, qui est un soldat qui a des relations peu cordiales avec Darcy, c'est l'opinion de Wickham qui ressemble un peu au sien, qui va tout de suite la faire pencher là, définitivement dans le côté « on n'aime pas M. Darcy ». Mais c'est après, vraiment, là, en voyant une autre partie de sa personnalité qu'elle peut apprendre à le découvrir. Puis aussi, le voir dans son environnement où il est plus à l'aise. C'est des gens auxquels elle peut plus faire confiance concernant leur opinion de Darcy qu'un homme un peu comme Wickham, un serpent un peu, qui va toujours se faufiler où est-ce qu'il n'est pas supposé être. Donc, c'est le fun de voir aussi, là, c'est les bonnes personnes qui peuvent avoir une bonne opinion de Darcy. Là.
Et c'est qu'on est quand même dans un monde, justement, aristocratique, une société serrée, extrêmement codé, ce qui, justement, nécessairement, l'opinion passe par l'opinion générale, l'opinion individuelle passe par l'opinion générale, parce que tout est basé à partir de, justement, codes sociaux de « à tel endroit, tu dois te comporter comme ça ». Tu sais, le problème de Darcy, c'est justement qu'il arrive, qu'il veut pas danser. J'ai retrouvé la réplique exactement, c'est « partout où il allait, Binkley était sûr d'attirer la sympathie, tandis que Darcy ne savait que déplaire ». Donc, il y a cette idée-là qu'en public, ça ne fonctionne pas. Je pense que ça... on peut le lire en disant « Ah, ben, c'est quelque chose qui est vraiment de cette époque-là. » Mais pour moi, le fait que cette époque, la société soit placée autant de l'avant, qu'il y ait autant ces dimensions-là de lien entre les gens qui créent l'opinion, ça l'exacerbe quelque chose qui va toujours exister. Finalement, on peut pas construire... Tu sais, l'opinion qu'on se fait des gens se construit à travers des liens sociaux. Donc, on ne peut pas éliminer de l'équation le fait que le monde va penser des choses qui vont nous influencer sur nous, ce qu'on pense des gens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on remarque qu'Austen le nuance quand même si elle est dans ce monde-là, ben, elle montre que oui, c'est important l'opinion que la société a des gens. Darcy doit évoluer, doit apprendre à plaire un peu plus, mais ça ne fait pas de lui non plus une mauvaise personne et ça fait de lui la figure dédiée à Elisabeth. Elisabeth, ce personnage incroyable qu'on aime d'amour.
Oui! Wow! Quelle déclaration, Pat! Pour revenir à ce que tu disais par rapport au jugement, c'est quelque chose qui existe encore tout à fait aujourd'hui. Puis c'est d'ailleurs une force, je pense, dans les romans d'Austen de trouver encore aujourd'hui une perspective qui nous rejoint. Donc, tu sais, le fait qu'on rencontre quelqu'un, il n'a pas l'air smart, on le juge tout de suite. On fait ça encore aujourd'hui. Là, t'as pas besoin de vivre à...
J'ai jamais fait ça de ma vie.
Ouais.
Flavie est probablement la personne avec le plus de jugement que je connais.
Ça a barouette oh, aujourd'hui. Dieu.
Non, mais c'est du bon jugement. Excusez, Flavie.
Donc, tout ça pour dire que dans cette idée des les personnages aussi, l'histoire en tant que telle, mais les personnages aussi dans Austen sont quand même... on peut s'identifier à eux d'une certaine manière. Et je pense qu'un des personnages auxquels on peut s'identifier beaucoup et qu'on aime beaucoup, comme tu nous as si bien dit, Pat, c'est Elisabeth Bennet. Donc, avant qu'on en discute, j'aimerais bien, Flavie, si tu peux nous lire la petite citation de Jane Austen elle-même à propos du personnage.
Oui, donc c'est tiré d'une lettre envoyée à sa sœur Cassandra, justement, à propos du personnage d'Elisabeth Bennet. Et Jane Austen dit elle-même « Je dois avouer que je la considère comme une des créatures les plus délicieuses ayant paru à l'écrit. Et je ne sais pas comment je pourrais tolérer ceux qui ne l'aiment pas. »
Oui, alors on a un extrait de la lettre de Jane Austen sur cette magnifique musique.
C'est émotif.
mais oui, ben quand même, c'est fort et assez prouvé dans le roman. On remarque, en tout cas, je pense que tout lecteur attentif voit qu'Elizabeth Bennet est complète. C'est un personnage incroyable.
Ouais, puis moi, je serais un peu d'accord que si je rencontrais quelqu'un qui aimait pas ce personnage, je pense pas que je pourrais vraiment apprécier cette personne.
Il y a un problème, il y a un problème à quelque part, là.
Ouais, parce qu'il faut le dire, c'est un personnage qui est vraiment réussi, qui est équilibré, qui a plusieurs facettes et qui n'est pas tranché, donc qui n'est pas tout noir, tout blanc. Elle arrive aussi à reconnaître ses erreurs, donc elle fait quand même un travail d'introspection, ce qui est, selon moi, relativement rare dans les romans. Ça dépend, là, mais je trouve que souvent, les personnages sont assez unidirectionnels.
En tout cas, si c'est rare dans les romans, chose certaine, c'est rare dans la vie de réellement reconnaître ses erreurs, comme le fait Elizabeth Bennet dans le livre. J'ai jamais rencontré personne qui fait ça, là. Moi le premier, d'être à ce point. Quand je me suis trompé, je me l'avoue. Maintenant, comment je grandis de mon erreur? Et c'est si bien démontré, c'est si bien ficelé dans le livre qu'on y croit. On y croit que c'est possible à travers Elizabeth Bennet.
Mais ça témoigne vraiment, en fait, d'une authenticité, finalement, du personnage, de cette humaine fictive qu'elle est. Puis c'est quand même une personne aussi qui est assez audacieuse, là, si on veut, surtout pour son époque. T'sais, le fait qu'elle veut se marier par amour, qu'elle cherche à trouver un mari qui va être à la hauteur de ses critères. Donc, elle cherche quelqu'un qui est intelligent, avec qui elle va pouvoir discuter, avec qui elle va sentir qu'il y a un certain challenge, disons. Puis ça, ben, c'est quand même quelque chose de surprenant, je pense, pour l'époque. Entre autres, elle prend des risques aussi. Donc, elle priorise son propre bonheur au profit, par exemple, de sa famille. Puisqu'elle va être demandée en mariage par un homme terrible, mais qui pourrait lui assurer une sécurité à elle et à toutes ses sœurs. Mais on pourra revenir au personnage de Mr. Collins, qui s'appelle. Mais donc, elle décide de refuser cette demande en mariage parce qu'elle veut et elle considère qu'elle mérite mieux.
Un autre très bon exemple de son attitude audacieuse, c'est quand elle marche pour aller rejoindre sa sœur malade, parce que bon, c'est pas une belle journée, il n'y a pas de carriole, je pense, pour la transporter, quelque chose comme ça, et elle va marcher, je crois que c'est 5 kilomètres ou 5000.
C'est 5000, je pense.
Ce qui est quand même une bonne marche, mais qui n'est pas tant que ça non plus. Mais pour les gens de la noblesse, ça n'a pas de bon sens qu'une femme comme ça enfile des bottines et marche
tout seul.
Et l'attitude, comme tu le disais, c'est pas subversif de renversons les codes de la société. C'est pas ça l'idée, mais c'est plus important d'être auprès de ma sœur que les codes. Il y a toujours cette rationalité-là de qu'est-ce qui est le plus important. Et puis là, ben, c'est m'occuper de ma sœur malade, donc elle le fait.
Puis aussi, je pense que là-dedans, dans son désir d'aller un peu là, contre les conventions, c'est pas, comme l'a dit Patrick, un désir de provoquer, mais c'est vraiment parce qu'elle est profondément authentique. Dès le début, là, dès les premières pages du roman, quand on a la description des personnages, on a une liste un peu là, simple des caractères, des traits de caractère, des défauts, des qualités d'Elizabeth Bennet. Et c'est comme si on pouvait l'entendre très bien elle-même, dire ça d'elle-même. Et le moment où elle va avoir la réalisation qu'elle s'est trompée sur le compte de Darcy et qu'elle aurait pas dû juger aussi durement, et qu'elle se dit « il faudrait que je change », c'est un moment qui se fait seule. Et elle ne le dit à personne non plus, donc c'est vraiment un moment où, profondément, authentiquement, elle se dit « mon Dieu, il faut que je change ». Et à ce moment-là, elle n'a aucun espoir de revenir avec Darcy, un peu de réparer tout seul. C'est vraiment, elle dit « pour moi-même, j'ai ce devoir de changer et d'être meilleure ». Donc je pense que cette authenticité et cette humilité-là fait vraiment sa force, là. Il nous la fait aimer encore plus ses autres qualités, son intelligence, son espièglerie, des choses comme ça, là, ça renforce un peu tout ça.
Eh bien, on s'emporte, hein? On pourrait parler d'Elizabeth finalement sur deux émissions. Et puis, je pense qu'on va continuer d'en parler après la pause, mais il faut bien aller écouter quelques publicités. On a également une chanson qui va nous mettre dans le mood, pour parler en bon français, de l'ère de la Regency, je l'ai en anglais.
C'est la Régence.
Donc, on va écouter une chanson qui s'appelle « Je croyais ma belle » après les publicités. On vous revient à She's 84. 14-3, la planète des sages.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
T'as envie de rire, te divertir et parler des vraies choses? Entre toi et moi, c'est la nouvelle émission sans tabou à ne pas manquer cet automne. Rejoins-nous chaque mercredi de 9h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie j'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Et si vous voulez être sûr de rien manquer des nouvelles d'art et de culture cet automne, j'ai monté une superbe équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs pour me parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas Chérie j'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Samedi 13 novembre, dès 18h, ne manquez pas le programme double de basket du Rouge et Or sur nos ondes alors que l'UQAM sera en visite au PET de l'Université Laval. Le match féminin débutera la soirée à 18h alors que les hommes prendront le relais vers 20h. Le programme double du basket du Rouge et Or, c'est ce samedi dès 18h seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Alors, nous écoutions « Je croyais ma belle » de Laura M. Ça fait partie de l'album de Jane Austen's Song Book, dans mon anglais magnifique. C'est, dans le fond, les chansons préférées de Jane Austen. C'est une liste qu'on a retrouvée. Et puis, ben, là, bien sûr, c'est des réadaptations, là. Donc, l'album est sorti en 2004. Et puis, c'est ça, c'est des chansons de l'ère à laquelle Austen écrivait la Régence.
Régence.
Mon Dieu, ça va bien, mon affaire. Donc, on s'est mis un petit peu dans le mood de l'époque. C'est sûr que ça drop pas de beat, hein?
Ouais, on s'attendait un petit peu à ce que le beat embarque, mais bon.
Mais tout de même, c'est... Ben moi, j'aime ça. Mais le lien va pas plus loin que... C'est ça, là, c'est une chanson sur que Austen appréciait beaucoup. Les paroles sont difficiles à entendre, hein, mais la chanson s'appelle « Je croyais ma belle ». C'est une chanson d'amour aussi. Avec Austen, on est souvent... Bon, on est toujours, en fait, dans des histoires d'amour. Donc... On est allé chercher très loin cette semaine pour faire un lien entre la musique et le thème.
Beau travail.
Bien joué.
Ben c'est ça, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Tu peux continuer, Brousseau Gauthier.
Mais donc, pour en revenir à Elizabeth Bennet, je pense qu'il y a un point qu'on a oublié de mentionner avant la pause, mais qui est très important, c'est le fait que Elizabeth Bennet a un incroyable sens de la répartie. Et ça, ça se traduit dans le fond par le style d'écriture de Jane Austen, qui est, faut le dire, quand même humoristique.
Ouais, moi c'est ça, là, l'humour chez Austen, c'est une des raisons qui me l'a fait autant apprécier. Oui, j'aime ça les belles histoires d'amour, puis les aristocrates, mais ça reste que, selon moi, son humour, son ironie, son sens de l'observation assez aiguisé, c'est ce qui contribue vraiment là, à la distinguer des autres romanciers, romancières de la même époque qui écrivent un peu des histoires similaires. Et selon moi, là, ça contribue aussi à rendre l'œuvre, qui peut parfois paraître intimidante par son statut de classique, beaucoup plus accessible et dynamique. Parfois, les gens ont beaucoup l'image d'un classique, là, le rouge et le noir, Guerre et paix de Tolstoï, là, vraiment, vraiment très lourd, très déprimant. On a toujours froid en les lisant, alors que Orgueil et préjugés, là, c'est vraiment une lecture qui est assez dynamique, comme je l'ai dit. Mais parfois, là, je me surprends encore, même ça fait plusieurs fois que je lis les livres, à rire à voix haute, là, en lisant ce que Austen a dit.
D'ailleurs, est-ce qu'on peut avoir un exemple de ça?
Oui, c'est ça. Pas de moi qui ris à voix haute, là, mais une phrase qui reste assez comique quand on la replace en contexte. C'est la première phrase de « Orgueil et préjugés », qui va vraiment être remplie d'ironie, là, surtout après la relecture du livre. Donc, voici la phrase. « C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit avoir envie de se marier. » Donc, si on la lit comme ça, sans contexte, c'est pas très drôle, mais ça reste qu'il y a plusieurs choses là-dedans. C'est une phrase qui est très riche. Déjà, on parle de vérité universellement reconnue qu'un célibataire marié, pourvu d'une belle fortune, doit avoir envie de se marier. C'est pas vraiment une vérité reconnue universellement, et c'est surtout vraiment vu du point de vue des femmes, surtout des mères qui cherchent désespérément à marier leur fille. Et aussi avec les personnages là, qu'on va voir, surtout M. Darcy. M. Darcy, à la base, n'a pas beaucoup d'intention de se marier, ce qui va vraiment frustrer les mères là, du village. C'est un peu comme un parti gâché, parce qu'il n'y a pas d'intention de se marier, puis il y a autant d'argent qui va finalement servir à rien.
C'est beaucoup aligné sur le personnage de la mère d'Elizabeth, donc Mrs. Bennet, qui, justement, est dans cette optique-là. Elle pourrait dire cette phrase-là, et c'est là qu'on voit qu'Austen navigue dans ses personnages, comme tu disais tout à l'heure. C'est narrateur omniscient qui va quand même chercher, s'aligner. Et ce qui est magique aussi, c'est que la mère d'Elizabeth Bennet, en soi, est un personnage un peu comique aussi.
Ridicule à certains égards.
Oui, on en rit à quelques moments dans le roman.
Mais d'ailleurs, il y a plusieurs personnages qui sont ridicules, qui font une espèce de contrebalance aux personnages plus vertueux, plus rationnels, comme Elizabeth ou M. Darcy. C'est le cas aussi de Mr. Colin, dont on parlait un peu là, tout à l'heure, qui lui est un prêtre qui... Comment vous le décririez?
C'est un pasteur. Puis, en fait, là, lui, c'est le cousin de la famille. Et puisque c'est l'héritier mâle le plus rapproché, c'est lui qui va hériter de tout le domaine là, à la mort du père Bennet. Et il y a des manières très, 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 très empoulées. Il n'est pas très... habile socialement, il n'est pas très non plus spontané. Donc, dès qu'il va avoir un événement social, il va là, se préparer à l'avance des commentaires, des compliments à faire, vraiment très maladroit et vraiment, là, franchement, assez malaisant.
Ouais, en même temps, il est vraiment comme une espèce de confiance en lui, il est un peu imbu de lui-même alors qu'il est ridicule et il est comme le seul à ne pas s'en rendre compte finalement.
Puis, à travers, justement, le fait que M. Collins soit un pasteur, Jane Austen, là, avec des personnages comme ça, par exemple, des aristocrates, des parents, des religieux, des figures vraiment campées, là, un peu des stéréotypes, va justement aller piquer et rire un peu des gens comme ça. Donc, M. Collins, oui, c'est un pasteur, mais c'est vraiment un pasteur peu éduqué, là. Donc, les religieux ont la chance de pouvoir se consacrer beaucoup aux études, à la lecture, mais M. Collins, malgré tout ça, reste quand même assez collé aux stéréotypes, par exemple, prendre la métaphore de la branche d'olivier pour une réconciliation, qui est une métaphore là, beaucoup trop utilisée, ou lire des sermons vraiment connus à l'époque, donc qui n'est pas très novateur. Là.
Oui, une scène extraordinaire pour montrer à quel point c'est un personnage qui ben ridicule comme on disait, c'est quand il essaye de lire aux sœurs de la ben toute la famille Bennett là, les jeunes filles, les cinq jeunes filles, des passages de la Bible, et il commence en disant oh, vous lisez jamais ça, mais ce qu'il faut comprendre c'est que les sœurs Bennett les plus jeunes j'ai un blanc au niveau des
Lydia
noms.
Lydia et Kitty.
C'est ça, c'est un peu des têtes folles là, ils sont vraiment pas du genre à lire la Bible, et il y a lui qui prend un gros moment de la soirée pour leur lire des passages de la Bible. C'est aussi quelqu'un qui navigue très mal dans les codes sociaux dont je parlais en début d'émission. Il arrive, il va s'adresser à des gens qui sont d'une classe plus élevée que la sienne sans la politesse qui serait normalement nécessaire à ce genre de geste-là. Donc on a vraiment un... C'est ça qui colle pas là, avec le monde dans lequel il est. Ce qui met de l'avant beaucoup de situations très absurdes.
Oui, puis en fait, c'est, je pense, une intention de Jane Austen d'utiliser cette espèce d'ironie de personnage ridicule pour critiquer un peu ce type de personnage qui existe malheureusement dans la vraie vie.
Malheureusement. Puis sinon, là, même des personnages qui sont pas nécessairement campés dans des stéréotypes qu'on parlait, elle va aussi rire d'eux. Même des personnages principaux, parfois, là, l'ironie va beaucoup être utilisée envers Elizabeth elle-même. Par exemple, c'est assez ironique qu'elle, qui se juge assez là, capable d'observer les gens et de déduire leurs qualités et leurs défauts, soit finalement celle qui se trompe sur elle-même et sur Darcy. Donc, même les personnages là, qui sont pas nécessairement des gros stéréotypes très ridicules, on va servir de l'ironie pour... un, pointer leur situation, mais aussi un peu en rire, en fait.
Oui, l'ironie est emmenée au-delà de son effet comique à une exploration thématique, finalement. C'est plus que justement nous faire rire en lisant le livre, les commentaires tranchants d'Elisabeth, eh bien là, ça nous fait réfléchir sur la posture ironique. L'exemple du père est très fort à ce niveau-là, parce que le père, si Elisabeth a une certaine ironie, le père, Bennett, lui, il n'est qu'ironique. Là, ils sont même plus dans le sarcasme. Il y a une certaine méchanceté, un cynisme et tout ça. Et puis, moi, je me souviens qu'à la lecture, au début, je l'appréciais tellement, je le trouvais drôle. Et puis, il y a un moment qu'on fait « Ah oui, non, mais c'est trop, là. » Il n'est que cynique et ça nous fait réfléchir. Mettons, personnellement, c'est quelque chose qui m'a ramené à moi-même. Parce que pourquoi je l'apprécie autant? Mais c'est parce que son humour me parlait. Puis j'ai réalisé, ah, mais est-ce que j'ai un peu de ce détachement cynique, ironique qui fait que ça finit par être de l'égocentrisme, finalement. Ça fait que je me soucie pas des gens autour de moi. Là, j'ai vraiment l'air de me décrire comme un humain exécrable. Mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que c'est le style ironique d'Austen, en l'intégrant à son roman, mais elle réussit à nous faire réfléchir sur l'ironie. Je pense que c'est un des exemples de l'efficacité de son écriture.
J'ai d'ailleurs une citation là, tirée de Orgueil et préjugés qui parle un peu d'une ironie de situation, là, un peu une dichotomie, c'est ça, entre les actions des personnages et ses gestes. Peut-être que Milly, là, tu pourrais la lire.
Je suis prête. Juste un instant, on va nous se mettre dans l'ambiance pour la lecture.
Ah oui, j'y tiens.
Alors, ça va comme suit. Miss Bingley était moins absorbée par sa lecture que par celle de M. Darcy et ne cessait de lui poser des questions ou d'aller voir à quelle page il en était. Mais ses tentatives de conversation restaient infructueuses. Il se contentait de lui répondre brièvement, sans interrompre sa lecture. À la fin, lasse de s'intéresser à un livre qu'elle avait pris uniquement parce que c'était le second volume de l'ouvrage choisi par Darcy, elle dit en étouffant un bâillement « Quelle agréable manière de passer la soirée. Nul plaisir vraiment ne vaut la lecture. On ne s'en lasse jamais, tandis qu'on se lasse du reste. Lorsque j'aurai une maison à moi, je serai malheureuse si je n'ai pas une très belle bibliothèque. »
Alors, un passage ironique, pour quelle raison, Flavie?
Bien, on voit tout le ridicule de la situation. En fait, là, c'est juste Caroline Bingley qui essaie de séduire Darcy, qui aime beaucoup lire, en tentant d'aimer lire, mais on voit clairement que ça ne colle pas. Et ensuite, après qu'on voit que la lecture l'ennuie profondément, elle fait cette déclaration d'amour à la lecture qui, mis dans le contexte, là, devient absolument ridicule et montre vraiment là, que le personnage est en elle-même un peu ridicule.
Parce qu'il faut dire qu'il y a deux niveaux là-dedans. On a l'ironie du personnage d'Elizabeth Bennett, mais on a l'ironie d'Austen en tant qu'écrivaine aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est ce qui fait aussi qu'on voit que Austin elle-même aime beaucoup son personnage parce qu'elle lui insuffle quelque chose qui fait partie de son écriture. Et justement, donc on peut analyser à la fois l'ironie dans la narration, comme cette situation-là qui est narrativement ironique, que l'ironie justement de certains personnages, leurs blagues, des répliques vraiment cinglantes, là, quelques-unes de M. Bennett, entre autres. Là. Donc, c'est vraiment intéressant de voir tout ça, tout ce mélange d'ironie à plusieurs niveaux.
Oui, puis justement, en parlant de l'humour de Austin, j'ai eu une réflexion de mon côté par rapport à la nature de l'humour. En fait, là, souvent, on a tendance, quand on lit des vieux livres ou quand on regarde même là, des vieux vidéos de stand-up comique, à se dire « Mon Dieu, c'est donc ben pas drôle. Comment ça, les gens trouvaient ça drôle il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 150 ans? » Mais ça reste que pour Austin, on trouve quand même encore ça très drôle, même 200 ans plus tard. Et je me demande, en fait, là, est-ce que l'humour peut parfois mieux vieillir que le tragique? En fait, les grandes tragédies grecques, par exemple, est-ce qu'ils ont moins bien vieilli que des blagues comme ça, là, assez ironiques?
Oui, bien, ce que je trouve intéressant, c'est que tu l'as emmené comme ça. Effectivement, on a cette impression de l'humour qui vieillit très mal. Et c'est vrai, parce que l'humour a cet ancrage dans le très particulier. Souvent, ce qui nous fait le plus rire, c'est des choses qui sont ultra personnelles. Il n'y a personne qui arrive à me faire rire autant que mes bons amis qui me connaissent très bien, avec qui j'ai vécu beaucoup de choses. Et puis ça se transpose effectivement dans le stand-up, par exemple, d'un humoriste des années 90 qui fait des blagues très propres à son époque et qu'on écoute ça aujourd'hui, hein, comme « voyons donc, là, c'est aucunement comique, parfois même c'est décalé, c'est méchant, c'est whatever quoi, qui cadre pas avec... aujourd'hui. Mais il faut dire que l'humour est un trait humain fondamental. Je cite en ce moment Victor Raskin, qui est un théoricien de la sémantique de l'humour sur lequel j'ai travaillé. Et il dit ça, donc c'est un trait humain. Puis, je dis, c'est assez entendu que l'humour nous distingue. Il y a certains rires chez les animaux, mais c'est pas la fonction humoristique comme on la voit chez l'humain. Et ça fait que, ben, on peut dire qu'il y a quelque chose d'universel, d'humain, dans l'humour. Et ce qui est fort chez Jane Austen, c'est que justement, même si le roman se passe dans un contexte ultra particulier, son sens de l'humour, lui, est dans l'universel. Donc, elle va chercher ce qui est universellement drôle chez des personnages, si bien que Orgueil et Préjugés va avoir des adaptations, par exemple, en Inde, dans le cinéma de Bollywood. J'ai vu ça récemment. Et que probablement certaines scènes sont copiées-collées là, du roman.
Est-ce que tu l'as regardé ou juste vu ça?
Non, j'ai vu que ça existait. Je pense honnêtement l'écouter. mais donc c'est ça, c'est que sa force est d'aller chercher ce qui est des humains est essentiellement, c'est peut-être fort, mais est fondamentalement peut-être drôle.
Oui, ben parce qu'elle rit de thèmes ou de situations qui pourraient nous arriver encore aujourd'hui. Tu sais, l'exemple dans l'extrait qu'on lisait tout à l'heure, c'est l'idée de faire quelque chose just for the looks. Là, les gens le disent. T'sais, on fait des choses juste parce qu'on a l'air cool quand on les fait. T'sais, de faire semblant que tu lis un livre genre super intellectuel pour dire genre oui, moi je lis du Nietzsche dans mes temps libres. Il y a Mystérieux encore des gens qui font ça aujourd'hui. Ouais,
il y a des gens qui font ça. Est-ce qu'on parle de Millie au secondaire en ce moment?
Je vois pas de quoi tu parles.
Okay. Mais pour répondre plus précisément à ta question, parce que là j'ai étonnamment parti dans une digression beaucoup trop longue, mais je crois que le tragique, effectivement, va vieillir mieux que l'humour parce que, je ne sais pas, un événement comme la mort de quelqu'un, ben c'est quelque chose qui va arriver à tout le monde, perdre des gens dans son entourage, malheureusement. Mais c'est pour ça que quand tu lis une tragédie grecque où il y a des personnages qui meurent, bien, ça t'appelle nécessairement plus que de lire des textes d'Aristophane, qui est un des premiers auteurs comiques et qui fait des blagues super nichées sur la société grecque. T'es comme... pas sûr de comprendre la référence, là, je la pogne pas.
Exactement, oui.
Mais en fait, je pense que c'est ça le point avec Austin, c'est qu'on comprend encore les références aujourd'hui, finalement, parce que c'est des références à des événements très larges et universels.
Exactement, ça dépasse la référence, je crois.
Puis aussi, même si l'humour de Austin là, va quand même plaire à tout le monde, je pense qu'une des raisons justement pour laquelle il plaît à tout le monde, c'est qu'il n'est pas tant méchant que ça. Parfois, les gens là, sur lesquels on va plus s'acharner, souvent, ils le méritent. Comme Patrick l'a dit, là, les personnages ont ce qu'ils méritent. Eh bien, les personnages qui sont plus médiocres vont aussi se faire traiter là, comme des personnes plus médiocres. Mais vraiment, là, une exception que Austin donne à ça, c'est ne pas rire des classes qui sont plus basses. En fait, là, dans un des livres, entre autres, Emma, là, il va y avoir une scène où Emma, qui est une aristocrate, va rire d'une de ses amies qui est plus une bourgeoise, là, si je me souviens bien, et elle va se faire réprimander là, et ça va vraiment là, mettre une douche froide sur l'événement. En fait.
Oui, elle rit de Miss Bates et le prétendant, parce qu'on découvre être le prétendant finalement d'Emma au cours du roman, va vraiment lui faire un sermon clair de « ça ne se fait pas ». Et moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué à l'écoute du film. J'ai pas encore lu le roman Emma, mais il y a une adaptation sortie récemment, une adaptation assez libre, mais bon, qui transpose cette scène-là, qui clairement est dans le roman. Et puis ça faisait écho pour moi, justement, quelque chose qu'on avait discuté en classe avec Julie Baribeau, que je salue encore, puis que je vais avoir cité 8 fois dans cette émission-là, mais qui nous faisait remarquer qu'il y a aucune scène avec les domestiques dans Orgueil et préjugé, parce que probablement que Austin sentait, puis dans tous ses romans, en fait, qu'il y a jamais, ça traite jamais des servants, parce que des serviteurs? Parce que, ben justement, son écriture ironique aurait été perçue comme condescendante, comme inappropriée à traiter d'une classe inférieure. Et ben là, ça se trouve littéralement en commentaire dans son œuvre.
Oui, effectivement, parce que ses romans sont vraiment centrés sur le monde aristocratique. Finalement, c'est au cœur de toutes ses histoires. Puis, c'est ce dont elle parle aussi. C'est un regard critique sur cette société-là, ce monde-là. Qui est vraiment central, puis c'est en fait le monde dans lequel elle vivait, finalement.
Oui, c'est ça, c'est vraiment la force de Austin. Là, c'est, elle parle de ce dont elle connaît, de ce qu'elle connaît, excusez-moi. Fait que non seulement, tu sais, elle n'est pas en terrain inconnu, mais aussi ça fait que ça a vraiment une belle richesse, des beaux détails là, qui permettent de vraiment rendre ça plus vif. Et d'ailleurs, Millie en a glissé un mot au début, mais Jane Austen là, vient un peu d'une classe moyenne supérieure qu'on pourrait appeler la gentry en Angleterre, mais qui n'a pas vraiment de traduction en français. Mais en fait, là, ces gens-là ont à la fois accès au monde aristocratique des très riches comme Darcy Bingley, mais aussi au monde un peu plus bas, là, comme les bourgeois, les choses comme ça. Donc, ça peut, la situation des personnages permet de voir vraiment une myriade de couches de la société. Et à cause de l'humour d'Austin, là, tous ces couches-là vont être critiquées, en fait.
Mm-hmm. Et justement, on est plongé dans le monde aristocratique qui n'est pas le nôtre, on peut écouter un extrait d'un moment qui rend bien l'univers aristocratique dans lequel on se trouve, de Emma, le roman dont on parlait.
Emma Woodhouse, belle, intelligente, douée d'un heureux naturel, disposant de larges revenus, semblait réunir sur sa tête les meilleurs dons de l'existence. Elle allait atteindre sa 21e année sans qu'une souffrance même légère l'eût effleurie. Les seuls écueils de la situation de la jeune fille étaient précisément l'absence de toute influence et de tout frein et une prédisposition à avoir une confiance excessive en soi-même.
Donc, on voit ici, là, avec la première description de Emma, en fait, là, c'est cette citation-là qui va ouvrir le roman éponyme, que Jane Austen rit un peu des aristocrates qui vont avoir eu dans leur vie là, un peu tout cru dans le bec, pour dire en bon québécois. Là. Puis Emma, on le voit dans le roman, là, est vraiment effrontée et parfois là, très peu appréciable. Puis ça vient un peu justement de sa situation aristocratique là, et un peu du fait qu'elle est tout facile, comme je dis, dans la vie. Puis dès le début, là, Jane Austen critique ça, oui, subtilement, mais elle va quand même le critiquer.
Mm-hmm. Oui, ça, c'est un monde aristocratique qui est décortiqué, qui n'est pas idéalisé, mais qui quand même a une influence certaine sur l'œuvre. Moi, ce que je trouve intéressant, je trouve qu'Elisabeth Bennett représente bien ça, c'est qu'on a vraiment cheval entre une certaine vision de la littérature aristocratique où les personnages se doivent d'être extrêmement vertueux pour insuffler cette vertu-là chez les lecteurs. Donc, il y a toute cette vision-là pendant longtemps. Là. La littérature devait, par exemple, on devait lire du Homère et avoir le goût d'aller à la guerre, là, si on remonte à la Grèce antique. Alors que la littérature moderne et même les œuvres narratives, comme on en parlait la semaine dernière avec Les Tourneaux Verts, on a plus tendance à essayer de voir ce qui est bas dans l'humain, ce qui fait qu'on est complexe et tout. Et là, avec Austin, on on est en cheval entre ces deux choses-là. On traite à la fois de la diversité humaine, du fait que les humains peuvent être très beaux, très larges, avoir plein de défauts, mais on montre aussi une Elizabeth Bennet virtueuse, inspirante, qui, à la lecture, va nous apprendre ces vertus-là. Donc, c'est vraiment c'est très bien maîtrisé. On dirait, pour moi, c'est le meilleur des deux mondes.
Oui, puis en plus, c'est vraiment un regard sur un monde qu'on connaît peu, nous, aujourd'hui. Tu sais, le monde aristocratique, c'est pas un monde qu'on côtoie, qui n'existe plus vraiment, du moins dans sa forme de l'ère de la Régence. Donc, c'est quand même, je trouve, quelque chose d'intéressant aussi que, personnellement, moi, j'aime beaucoup retrouver parce que ça fait voyager à une autre époque, finalement.
Bien, écoutez, ça tire bientôt à sa fin. Flavie, je ne sais pas si tu avais quelque chose à nous laisser. Sur quelle note tu veux qu'on se souvienne de Austen? Ben, on s'en souvient qu'on continue à la lire, finalement. C'est quoi pour toi l'élément le plus marquant dans cette œuvre-là?
Je pense que ce qu'on a dit là, avec vraiment l'humour puis un peu la critique de la société, etc., puis les personnages imparfaits mais inspirants, je pense que ce qui est vraiment... c'est peut-être un peu simpliste et quétaine à dire, mais je pense que ce qui est marquant de Austen, c'est vraiment l'humanité de son œuvre et de ses personnages. Ça parle de sentiments qui nous sont connus, l'amour, la jalousie, la haine, des choses comme ça, avec des personnages aussi qui nous ressemblent, mais qui sont quand même là, des personnages travaillés, intéressants. Donc, c'est vraiment, je pense, sa grande humanité et sa capacité là, à rendre extraordinaire des situations assez ordinaires.
Ben écoutez, on vous invite à la lire, à la relire. Personnellement, c'est un devoir que je me fais d'avoir lu plus que Orgueil et Préjugés. En plus, j'ai la chance d'avoir des personnes dans mon entourage qui vont pouvoir me guider dans ces lectures-là, qui maîtrisent son œuvre. Merci beaucoup, Flavie, d'être venue comme chroniqueuse. C'était vraiment plaisant de t'avoir pour jaser d'Austen. Merci, Millie, pour ta présentation d'Austen cette semaine encore. On se voit plus souvent, mais c'est toujours plaisant que tu sois là.
Ben, ça me fait toujours plaisir d'être à l'émission.
Alors, on poursuit nos réflexions à tous les jeudis à 11h sur Chiz 94.3 à la planète des sages. On peut également nous retrouver sur le site de Chiz, sur Spotify, sur iTunes. La semaine prochaine, on parle de qui, Millie?
La semaine prochaine, c'est Raphaël Laverdière qui revient à l'émission nous parler cette fois-ci de la reine Victoria. Donc, on va rester dans l'Angleterre et le monde aristocratique d'une autre période, mais sur un point de vue peut-être plus géopolitique et peut-être moins littéraire.
Alors, nous verrons bien avec Raphaël la semaine prochaine. Merci beaucoup tout le monde. On se revoit la semaine prochaine.
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Bord de la réveilleur Saint-Charles, boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Découvrez Run Up River, le tout nouvel album de Renaud McCarthy. Incluant l'extrait « For a moment ». Ne manquez pas son spectacle le 26 novembre au Grand Théâtre de Québec. L'album est disponible sur toutes les plateformes d'écoute dès maintenant et les billets sont en vente au grandtheatre.qc.ca.
Tu te demandes c'est quoi le prog? T'aimerais en savoir plus? À l'émission L'ère du progrès, on revisite la naissance et l'évolution de la musique progressive sous toutes ses formes, puis on analyse son contenu pour mieux la comprendre. Le prog aura jamais été aussi accessible. Si ça t'intéresse, c'est les lundis soirs de 22h à 23h à Chiz 94.3 ou au www.chiz.ca. À bientôt!
We'll be right back. cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
L'eau coulait par la gouttière, coup de pagaie dans le gazon. On se croirait à la rivière. Je ne quitte plus son lit, on n'en file plus les hameçons. Tout au fond dans la prairie, s'ouvre la porte cochère.